Merci beaucoup pour cette invitation. Pour cette invitation où je vois beaucoup de têtes connues et je ne peux pas ne pas penser à Denis, dont j'étais très proche, et à Philippe Bibard et à tant d'autres. Alors, merci de cette invitation pour vous parler du travail de la SIAZ et puis peut-être quelques mots sur le travail que l'on a commencé de faire pour la réparation des préjudices des victimes de religieuses et religieux. Il y a deux commissions, bon, on pourra vous expliquer pourquoi, mais il y a deux commissions. Alors, la SIAZ commence à travailler en janvier-février 2019. Alors, comment ça marche? Il y a un mandat, un choix qui est fait à la fois par la COREF et la CEF, c'est-à-dire par les évêques et les congrégations, de confier à une personne le mandat de monter lui une commission en toute indépendance, de la faire fonctionner avec une feuille de route. Cette feuille de route, c'est faire la lumière sur les abus sexuels commis dans l'Église depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui. En fait, ça veut dire juste un mémoire d'homme, quoi. Hein. Et puis faire le bilan des cellules d'écoute mises en place par les diocèses, ou d'évaluer les dispositifs qui ont été mis en place par l'Église, et puis troisièmement de faire des propositions pour éviter le renouvellement et les transformations nécessaires pour mettre fin autant que possible à ces abus. Alors les abus, on a longuement discuté de ce terme, il est un peu pudique. En fait, il s'agit de violences sexuelles, il s'agit de crimes dont beaucoup, pas tous, mais la plupart, sont passibles d'une peine de 20 ans de réclusion criminelle. Et tous les jours, pratiquement, les cours d'assises de France et de Navarre envoient des gens pour 10 ans, 15 ans en prison pour les mêmes faits. Alors, donc, quand on dit d'abus, soyons clairs, il y a toute une gamme, je pourrais revenir parce que c'est... Il y a toute une gamme de faits, d'attitudes qui peuvent aller de faits peu graves, mais aux conséquences terribles, jusqu'à des faits très graves d'un point de vue médico-légal, c'est-à-dire auquel il y a un viol consommé avec pénétration. Alors, tout de suite une annotation, parce que une annotation qui me semble importante, on est dans un milieu religieux. Donc on est dans un milieu dans lequel l'Église est là pour annoncer le salut. On était compétent pour à la fois les victimes mineures de 18 ans et les victimes majeures vulnérables. Et dans les victimes majeures vulnérables, c'était beaucoup de religieux, pas exclusivement, mais beaucoup, beaucoup de religieux, beaucoup de jeunes qui rentrent dans des communautés religieuses pour chercher Dieu, pour réaliser une vocation, suite à une décision très importante pour eux qui est d'engager radicalement leur vie. Et ils rentrent dans une communauté, ils quittent ton père, ta mère, ils quittent leur famille, ils quittent beaucoup de choses, et là peuvent commencer différentes sortes d'abus. D'abus matériels, il y a pas mal de gens qui vendent tous leurs biens et qui donnent tous ces biens à la communauté. Au bout de 2-3 ans, 4 ans, voire plus, où ils ou elles sont cloîtrés dans une communauté fermée qui peut être dysfonctionnelle, tout d'un coup il y a des attouchements. Le permis des novices passe à l'acte. Et de manière qui n'est pas nécessairement très grave d'un point de vue médico-légal. C'est des attouchements, c'est des baisers, des propos déplacés, des sollicitations, du harcèlement, etc. Mais comme on est dans un milieu religieux, comme on est dans la perspective de cette radicalité de l'engagement des jeunes, tout d'un coup, il se passe une sorte de décrochage. Mais où est-ce que je suis ? Je suis rentré dans une communauté religieuse, et tout d'un coup, il y a l'un des responsables de cette communauté qui me harcèle sexuellement, qui introduit une dimension érotique dans ce choix spirituel. Et la plupart du temps, quand ces personnes se plaignent, elles sont très mal reçues par les directeurs, par les supérieurs de communauté, et très mal reçues. De quoi tu te plains, alors tu peux avoir besoin d'affection, et puis très vite ça devient, mais elle, c'est une fille à problème, elle est compliquée, marginalisation, on ne lui donne pas toutes les infos, on lui parle plus, il y a une sorte de vide autour d'elle, et finalement ce qui va se passer dans l'immense majorité des cas, dans la totalité des cas, cette personne va devoir quitter la communauté. Elle n'a pas de formation, elle n'a pas de point à retraite, elle n'a plus de copine, elle est souvent fâchée avec sa famille qui n'était pas d'accord avec ses décisions que la famille trouvait trop précipitée, trop radicale, trop machin. Elle est détruite intérieurement parce que le fait que celui ou celle qui devait l'aider à cheminer dans un chemin spirituel de foi, d'ascèse, en fait, a dévoilé des intentions qui n'avaient rien de spirituel. Et alors qu'elle est sûre que le supérieur ou la supérieure va lui donner raison, ben non, c'est le contraire. Et elle part désabusée, détruite, sans un sou, sans relation, sans compétence, encore une fois, sans point retraite. Et là, la galère commence. Ouais, la galère commence. Elle continue. Et elle continue loin de l'église, et en plus, avec une réputation sulfureuse, elle est une emmerdeuse, elle n'arrête pas d'écrire, elle se plaint, etc., etc. Alors, ça, j'insiste sur cet exemple que je vis tous les jours, étant spécialisé maintenant sur les religieux. Sur un point qui me semble essentiel et qui a été notre grand étonnement à tous. Tous, c'est un collectif de la science qui était composé de gens qui étaient là en raison de leurs compétences, des psychiatres, des juristes, un canoniste, un théologien, une canoniste, un théologien. Il n'y avait pas de clerc, pas de victime. Donc c'était que... là où on est, on n'a toujours pas compris d'ailleurs, c'est que on découvre des choses terribles, mais des choses terribles, il y en a partout. Les hommes sont les hommes, on ne va pas empêcher qu'il se passe des débordements pulsionnels, sexuels, partout il y a des hommes. C'est pas vraiment la question. La question, c'est que, alors que ces faits sont scandaleux, comme cette jeune fille qui, finalement, ce qu'elle ne comprend pas, et ce qui va lui bousiller la vie, c'est ce scandale qui n'est pas considéré comme scandaleux par les responsables de l'Église. Par ça, elle ne comprend pas. Et elle ne comprend pas, et elle dit, mais qu'est-ce que c'est que l'Église ? Qu'est-ce que c'est que cette boîte ? Où je m'engage, où je mets tous mes œufs dans le même panier, où j'ai une confiance aveugle, absolue, non seulement dans le père des novices, mais dans la supérieure, dans l'évêque, au Vatican, et tous comme un seul homme disent « qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi toi tu te plains ? Attends. » Alors, et j'insiste là-dessus, parce que je pense que pour des chrétiens, c'est une interrogation, pas pour les chrétiens, pour tout le monde, c'est que ce qui devrait faire événement, ce qui devrait faire scandale, ce qui devrait être insupportable pour n'importe quel chrétien, et encore plus pour n'importe quel responsable d'église, ça ne pose aucun problème. On est capable de dissimuler, de mentir, de déplacer le prêtre, de flétrir la réputation des victimes, mais sans aucun problème. Sans aucun problème, et par certains côtés, c'est un peu la culture d'entreprise, si j'ai pu m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que, dans le fond, la hiérarchie ecclésiale, mais c'est Ratzinger est sorti la semaine dernière et c'est pas fini, malheureusement, il n'a rien fait de mal. Mais ce qui aurait dû être pris extrêmement au sérieux, pas de problème. Quand le sacrement devient l'arme du crime, quand dans un pensionnat, le tarif, c'est une confession, une fellation, et tous les gamins y passent, et que le directeur d'école ne fait rien, et que personne ne fait rien, on se dit, c'est pas qu'il y ait un obsédé sexuel, ça, il y en aura, ça, c'est pas... Le vrai problème, c'est qu'il ne se passe rien. Et que non seulement il ne se passe rien, mais qu'on détruit les archives, qu'on déplace le prêtre, qu'on ment aux parents, que ceci, que cela. Alors, donc c'était... je crois que c'est l'interrogation... C'est l'interrogation essentielle, quoi, principale, parce qu'elle est de nature quasi métaphysique. C'est-à-dire comment une institution qui annonce le salut, qui promet la vie, peut semer la mort. Et c'est les mots même du pape François. Et comment elle peut le faire sans que ça lui pose aucun problème institutionnel. Au contraire. Bon, alors ça, on peut en parler très très longtemps, mais c'est et c'est tout un travail parce que la première attitude, c'est on cache, on dissimule, on ment, on planque, avec des exceptions bien entendu. Et puis après, dans les années 50-60, d'ailleurs, il y a le sentiment que il faut s'occuper des prêtres. Et c'est l'entraide sacerdotale. Et il y a le sentiment que les prêtres vont pas bien, qu'il y a des alcooliques, des dépressifs, des obsédés sexuels, et que la tâche de l'Église, c'est de s'occuper de ces gens-là, de s'occuper d'eux. On pense pas aux victimes. Ça, les victimes, il faut s'en protéger. Aucune considération donnée aux victimes. Et après 68, il se passe un phénomène qui est le début de l'hémorragie démographique, qui n'est pas vraiment le début, alors ça a comme un peu commencé, le début de l'hémorragie démographique des prêtres, et donc le prêtre devient une denrée rare, et donc on ferme l'entraide sacerdotale, et là, il y a, si les prêtres ne sont pas bien, bah, qu'ils aillent au dispensaire, et il y a de la part de l'Église une surdité encore plus grande. Alors, comment est-ce qu'on a travaillé? On a travaillé en faisant des groupes de travail avec des chercheurs, des démographes, des historiens essentiellement, qui ont mobilisé des chercheurs pour fouiller les archives et puis faire une enquête en population générale, dont je vais dire un mot, tout de suite, et puis il y avait des groupes de travail, un sur le droit canon et la déficience juridique de l'Église, un autre sur les problèmes théologiques et ecclésiologiques, un autre sur l'évaluation des cellules d'écoute, et puis un quatrième dont j'étais responsable avec Alice Casagrande sur l'audition des victimes et mettre en place le processus d'audition des victimes. Et quelle audition, d'ailleurs, nous ont tout de suite fait comprendre que finalement c'est elle qui allait définir notre mission. Que si on ne partait pas des victimes, on ferait une enquête administrative. Et on a pris le parti, donc très tôt, et qu'on l'a tenu jusqu'au bout, et on l'a tenu jusqu'à la rédaction du rapport, de se dire il faut partir du vécu des victimes qui ont, comme on dit, et comme disait Alice, avec laquelle je travaillais, Alice Casagrande, disons, elles ont un savoir expérientiel. Et finalement, elles savent des choses de l'Église, de ces abus que personne ne sait. Parce qu'elles vont nous dire des choses, et
vont nous dire des choses, c'est pas uniquement de la révélation de faits, c'est beaucoup plus que ça, c'est une ambiance. Il y a une famille, quoi, une mère et une fille viennent révéler des sévices, quoi, oui, des mauvais traitements, qui sont quasiment des sévices, avec une sorte de maniaque qui frappe les enfants, etc., en abusant d'eux. Et vient raconter ça à l'évêque. Qu'a fait ce qu'il fallait, d'ailleurs, pas provisoirement, parce qu'il n'y a eu pas de transmission à son successeur, et il a recommencé. Et pendant tout l'entretien, l'évêque se tient la tête entre les mains et dit « Pauvre prêtre !» Et les victimes nous disent « Alors, on n'a pas compris. On venait raconter des trucs épouvantables, et l'évêque, pendant tout l'entretien, a dit « Ah, le pauvre prêtre !» Et c'est très révélateur d'une ambiance d'église. Bon. Alors, donc, on a beaucoup travaillé avec les victimes, on avait fait un groupe miroir, et qui fait qu'on a noué des liens de confiance avec elles. Alors, j'en profite pour faire dire quelque chose qui est essentiel. Les victimes, ce ne sont pas que des enfants et des laïcs. Il y a beaucoup de religieux dans les victimes. Il y a beaucoup de prêtres. On a travaillé et on continue de travailler. Et plus on en découvre des prêtres et des religieux qui ont été abusés et pour lesquels c'est une souffrance terrible d'être dans une ambiance qui se défie d'eux. Il y a eu une expérience qui pour moi et qui pour nous tous n'a pas été interloquée. À Lourdes, là, il y a même pas 3 mois, à Lourdes, il y avait un dominicain fait un topo spirituel sur les abus, l'abus sexuel, etc. Et avec le portable, il dit on va faire une consultation pour voir, pour que vous puissiez réagir à ce que je dis. Bon, comme il s'agit de religieux, de supérieurs généraux, ils ne sont pas tous très habiles en informatique, il y en a que la moitié qui arrive à servir du logiciel. Donc, ils sont 422, 200 arrivent à se servir du logiciel. Il s'agit de religieux qui sont non seulement religieux, mais qui sont supérieurs majeurs de leur truc. La moitié ont été violés. La moitié d'entre eux, alors pas tous par des gens d'église, la moitié ont été violés. Ça veut dire, alors ça c'est important parce que je vais revenir dans un instant pour les chiffres. Ça veut dire que, un, on est devant un phénomène massif, un crime massif, et on est sur un problème qui est un problème d'abord interne à l'Église. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on avait très peur au début de la SIAZ, on avait très peur des anticléricaux. Parce qu'on se disait, le but c'est pas faire du mal à l'Église, au contraire. Mais c'est d'être objectif, c'est de bien faire la tâche qui nous est confiée, et on ne veut pas que ces informations explosives soient récupérées. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait des tas de précautions, etc. Vous avez entendu ce anticléricaux après le rapport de la SIAZ ? Personne. Et moi, j'ai même entendu des copains qui viennent, que j'attendais pas, qui sont d'autres religions, qui viennent de l'extrême gauche, des juifs, des musulmans, etc., qui me disent « Chapeau, ce que vous avez fait dans l'église, ben nous, si on l'avait fait à l'UNEF, si on le faisait en islam, si on faisait machin, ça serait bien. » Donc, c'est important pour bien situer le problème. Le nombre, rapidement, je pourrais arriver dans la discussion, parce que ça a donné lieu à une polémique, mais on est assez sûr de nous. C'est-à-dire, le nombre, il vient de plusieurs choses. Il vient d'une enquête en population générale sur 28 000 personnes, et qu'a extrapolé par modélisation mathématique. Et c'était fait par des démographes et des sociologues du comportement sexuel. Donc, ils travaillent là-dessus depuis des décennies, sur des tas d'autres questions qui concernent le comportement sexuel des Français ou d'ailleurs ou ailleurs. Donc, c'est de la science. C'est pas à partir d'une enquête, on trouve que. Quand je dis c'est de la science, par exemple, en criminologie, on sait que seuls moins de 10% des victimes de viol portent plainte. Même pas portent plainte, le rapportent à quelqu'un d'autre, que ce soit à la famille, à une copine ou à une institution. Moins de 10%. Ça veut dire que quand on a un chiffre, on sait, et on sait depuis 20 ans, 30 ans, il y a des enquêtes dans tous les pays occidentaux, c'est la même chose, des pays sérieux, il y a des sciences sociales, des démographes, on sait que quand on a un nombre de crimes reported, comme on dit en anglais, dont les gens parlent, il faut multiplier par plus que facteur 9 pour avoir une idée du chiffre réel. Bon, ça on le sait. Les historiens ont fouillé les archives et on a eu, il y a beaucoup de congrégations de diocèses qui ont joué le jeu et avec lesquelles on a eu accès, d'autres n'ont pas joué le jeu, tout à fait minoritaire, mais c'était pas grave parce que les historiens arrivent à des moyennes, les historiens arrivent avec les archives à établir des régularités. Et à partir d'un certain moment, ils fouillent 10 archives supplémentaires, 15 supplémentaires, la régularité ne bouge pas. Enfin, je pense que les scientifiques parmi vous comprendront bien ce phénomène. Donc il dit, on a quelque chose qui est valide. Bon. On a fouillé les dossiers judiciaires, et puis il y avait notre sensation, notre retour dans les victimes. J'ai travaillé la semaine dernière sur le cas d'un agresseur, et il y a plusieurs témoins qui disent qu'il y a au minimum 30 victimes pour lui. Au minimum 30 victimes. Et puis, je pense que vous savez aussi bien que moi, mais je le sais un peu plus parce que sachant ce que je fais, il y a des tas de gens qui viennent me voir dans les réunions comme cet après-midi ou dans d'autres occasions et qui me racontent leur abus. Ou qui me racontent, parce que, en fait, c'est un phénomène sur lequel on pourra discuter, mais qui est très important. Ce que racontent les victimes, comme dit très bien l'une d'entre elles, qui est prêtre, il dit, mais c'est impensable, c'est inimaginable. Qu'un prêtre puisse faire ça, c'est pas possible. C'est inimaginable. Et tant qu'on ne peut pas l'imaginer, on ne va pas trouver. Et donc, je remontais en train de Lourdes avec une supérieure majeure et elle me disait, je suis très troublée par ces journées qui ont été très denses, très riches. Et elle me dit, je suis très troublée parce que mon frère, on est deux sœurs et un frère, mon frère, il y a un moment où il a changé d'attitude du tout au tout, il est devenu agressif, il a touché aux drogues, il ne nous parlait plus, on ne savait plus comment le prendre, il était invivable, on ne s'entendait pas avec lui, voilà, ça fait des années qu'on n'a plus de contact avec lui d'ailleurs, mais on a appris que son instituteur s'est suicidé. Et après ce que j'ai entendu à Lourdes, dans le fond, c'est exactement le tableau de quelqu'un d'abusé. Et ça, alors je vous passe de parents dont le fils s'est suicidé, tout allait bien, il avait réussi une belle école de commerce, ça marchait, c'était bon, et puis il y avait une mésentente avec son épouse, il s'est suicidé. Pourquoi un peu incompréhensible, jusqu'à ce que la thérapeute avertisse les parents pour leur dire, il est mort, je me sens que c'est le devoir de vous dire qu'en fait, il avait été abusé et qu'il ne remontait pas la pente. Et on trouve, et puis il n'y arrivait pas. Il sentait bien qu'il était obsédé par ses mains, et jusqu'à ce qu'il mette fin à ses jours. Et c'est typique d'une victime, du comportement de victime, c'est-à-dire... les victimes ont ce qui est une autre découverte de la SIAZ après le chiffre de 216 000 victimes, 230 et 330 si on ajoute les laïcs travaillant dans l'Église, ce qui est une découverte et qui continue de l'être d'ailleurs, c'est le niveau de dévastation de vie, de saccage d'une vie que peut provoquer un passage à l'acte. Un seul suffit. Et comme dit un psychiatre américain, Murphy, il dit l'abus sexuel, le traumatisme chez un enfant, c'est il y a les poupées en chiffon, les poupées en cire, les poupées en porcelaine, quoi, et les poupées en bronze. Ben, elles reçoivent le même coup de marteau, il y a celle en porcelaine, elle éclate, celle qui est en cire, elle garde une marque toute sa vie, celle qui est en chiffon, ça n'a rien, et celle qui est en bronze, elle n'éprouve rien. Et c'est exactement ce qu'on a trouvé à la science. Et je crois d'ailleurs à la décharge des prédateurs, je pense qu'ils n'avaient pas conscience de ça. Et je pense que dans les années 50 et 60, personne ne savait ça, à vrai dire. C'est-à-dire, oh, c'est un mauvais moment à passer pour les gamins, voilà, bon. Et donc, ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'on voit, on voit les dégâts. On voit les dégâts, c'est-à-dire que 40%, on estime à 40% des victimes d'abus sexuels commis dans l'Église qui sont des personnes sont très très affectées, dévastées, des problèmes d'alcoolisme, instabilité amoureuse, incapacité d'être touchée, par exemple, ça c'est un grand classique, donc c'est difficile pour avoir construit une vie de famille. Ça veut dire, et c'est aussi ça, on ne peut pas, il faut le regarder en face, c'est-à-dire que le premier lieu d'abus sexuel des enfants, c'est la famille, l'inceste. Le deuxième, c'est l'Église. Après viennent les collèges et lycées catholiques, puis ensuite moins les collèges d'État, puis le sport, puis les colonies de vacances et les lieux de socialisation de l'enfant. C'est-à-dire que l'Église est le deuxième lieu d'abus. Parmi ces victimes, on constate qu'il y a 80% de petits garçons, 20% de petites filles, alors que dans la population générale, c'est le contraire. Il y a 75% de petites filles agressées contre 25% de petits garçons. Les faits sont relativement moins graves dans le sens où, bien relativement, en fait, dans le sens où il s'agit il y a 20%, un peu plus de 20% de viols consommés dans l'Église, il y a entre 29 et 30 dans la société civile. Mais les viols s'étalent sur une durée plus longue dans l'Église que dans la société civile. Alors voilà, ça c'est les chiffres. C'est les chiffres, c'est ce qu'on a. On est devant une situation qui est préoccupante, quoi, qui invite à réfléchir. Pourquoi autant de petits garçons? Pourquoi autant d'abus? C'est des interrogations pour lesquelles on a des pistes de réflexion, alors des tas de pistes de réflexion qui sont à la fois des problèmes sociologiques et puis il faut voir aussi alors on a bien vu nous dans le trajet classique d'un enfant abusé, c'est qu'il est abusé vers 11 ans ou 15 ans, entre 11 ans et 15 ans, et c'est très souvent moins de 15 ans. Il y a une très longue amnésie. Alors, amnésie. Les psychiatres disent qu'il faut se méfier un peu d'amnésie, parce que c'est pas. Il y a très rarement, j'en ai vu quelques-unes avec un psychiatre, des vraies amnésies traumatiques. C'est des gens qui ne se souviennent absolument pas. En fait, très souvent, c'est des souvenirs qu'on a coincé dans sa mémoire et dont on ne se souvient pas, mais en fait, ils sont quand même présents. Et puis, ou bien alors, c'est des souvenirs dont on n'arrive pas à parler à personne. Et en général, la moyenne, c'est 40 ans après, donc 50 ans, arrive un moment de l'existence où on envisage la retraite, les enfants sont partis de la maison, où on commence à faire un peu le bilan de sa vie, et là, à cet âge qui n'est pas la fin de vie, qui est plutôt, on pourrait dire, le soir ou la fin d'après-midi d'une vie, les souvenirs reviennent. Ils peuvent revenir de manière très brusque. Ils peuvent venir de manière très brusque. Il y a une histoire, mais entre mille, un prêtre de paroisse qui était canadien. Un jour, une paroissienne lui dit « Ah, père, j'aimerais bien que vous lisiez le livre de Dan Allender, c'est un Américain, sur les abus. Ça m'a troublé, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. » « Ah ben oui, donnez-moi ça, je vous en reparle dimanche prochain. » Et le prêtre ouvre le livre de Dan Allender et il s'effondre. Parce qu'il voit son histoire. Il est prêtre depuis 20 ans et il s'effondre littéralement. Et il me dit « J'ai passé 3 jours à pleurer, je ne pouvais rien faire. » Et donc, il fait tout un travail très long, pénible, et à la fin, il se pose une question est-ce que je ne suis pas devenu prêtre par syndrome de Stockholm, de l'identification à l'agresseur, bon. Et tout un travail où, au terme duquel il dit je rechoisis mon sacerdoce, je me comporterai plus jamais comme un curé. C'est-à-dire, je m'habille en civil complètement, primum inter pares, je supporte plus le cléricalisme, y compris au point de vue interne. Voilà. Alors, un retour des souvenirs traumatiques qui viennent obsédants, qui expliquent beaucoup de choses des problèmes d'une vie, d'ailleurs, peut-être pas tout, mais qui expliquent beaucoup de choses, et qui 60 ans, 70 ans, on a envie de se mettre au clair avant de partir. Et se mettre au clair avec l'Église. Alors ça, c'est des gens que je vois toute la journée. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas partir avec ce secret-là. Je veux être capable de partager avec ma femme et mes enfants, ce que je n'ai jamais réussi à faire. Et je ne veux pas que ni le curé qui est mort depuis longtemps, souvent, ni l'Église ne l'emporte au paradis. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte un peu de ce qu'ils ont fait. Qu'ils se rendent compte de l'horreur de ce que c'est et de leur irresponsabilité. Alors après, bon, on a tout un travail qu'on leur propose, ce travail, alors c'est le crime parfait. C'est le crime parfait parce qu'il ne laisse pas de traces, c'est vrai de toutes les affaires sexuelles, il ne laisse pas de traces, il y a une différence d'âge entre l'agresseur et la victime de 40 ans, 30-40 ans, c'est bien que quand la victime s'en souvient, le prêtre est mort. Et ses collègues aussi, et la manière d'établir, comme parfois les archives sont détruites, on ne sait pas vers qui se retourner. Et on a des réflexions très maladroites de la part des évêques, du style on a vérifié, de toute façon c'est prescrit, vous ne pouvez plus rien contre nous. La semaine dernière. Hein. Ah non, vous ne pouvez plus rien contre nous. Alors, comme accueil, encore une fois, tous ne sont pas comme ça, c'est un crime parfait. Et on comprend que comme tous les crimes de masse, ou comme tous les crimes massifs, il appelle le négationnisme. Ce qu'ont fait nos académiciens il y a un mois, c'est-à-dire, ben oui, il n'y a pas de preuve. Par définition, il n'y a pas de preuve. Qu'est-ce qu'on va savoir ce qui se passe dans un confessionnal, qui en général n'est pas un confessionnal, qui en général est la chambre du prêtre. Qu'est-ce qu'on va croire un gamin de 15 ans, 30 ans, de 11 ans, 15 ans après, etc. Donc c'est le crime parfait. Il ne laisse pas de preuve, on peut disqualifier la victime. Ça donne lieu, comme tous les autres crimes massifs ou de masse, à du négationnisme, non, ça n'existe pas, l'extrapolation, les ennemis de l'Église, une fois de plus, et tout, mais non. Là, ça ne marche pas. Alors, voilà, je ne vais pas continuer, parce qu'il est presque 45, mais se posent des questions, des réflexions qui sont en cours, et qui sont en cours pour des décennies, c'est-à-dire comment prévenir, mais je terminerai là-dessus cette introduction. vous voyez bien que il y a deux manières d'appréhender les abus sexuels dans l'Église. Soit on prend comme des brebis galeuses, que l'Église comporte comme, encore une fois, comme n'importe quelle organisation humaine, des brebis galeuses qui n'ont pas été détectées ou empêchées. Et là, c'est un problème d'organisation. Il faut mettre des pare-feux, des systèmes de prévention, etc. Mais ce qu'on a dit, et ce qui est accepté par les évêques aujourd'hui et par les congrégations, c'est dire non, c'est pas uniquement des brebis galeuses, c'est bien un problème systémique. C'est-à-dire que de ne pas avoir vu le scandale, de ne pas avoir vu l'horreur, d'avoir couvert des choses comme ça, de soutenir et féliciter Monseigneur Piquant, comme ça s'est fait au Vatican au mois de novembre, juste au moment où on menait le rapport de la science, féliciter Monseigneur Piquant pour n'avoir pas parlé, alors qu'il a été condamné par la justice française, parce que le secret de la confession, parce que... Non, je crois que ça montre qu'on est bien dans un problème systémique. C'est-à-dire, c'est bien la culture de l'Église et des choses plus profondes, hein, sur le cléricalisme, cette sorte de fonctionnement. Un fonctionnement dans lequel les familles ont souvent relayé, ça, je n'en ai pas parlé, mais les familles n'ont pas cru des enfants ou ne les ont pas écoutés. Quand le jeune garçon disait je ne vais pas retourner au cathé, il prenait une paire de claques. Bon, sans explication, alors qu'il était abusé à la fin de chaque séance. C'est dire que c'est un travail important, long, qui doit être fait. Il y a un très bon bouquin, de quelqu'un qui est vraiment extrêmement intéressant, qui est Patrick Goujon, Prière de ne pas abuser, qui est un jésuite, professeur à la faculté jésuite de Sèvres, et qui raconte ça très très bien. Et il a décidé d'engager un travail théologique sur les abus, qui me semble tout à fait bienvenu. Et c'est un livre formidable, parce que c'est un livre, on ne peut pas dire que ça vienne d'un ennemi de l'Église. Hein. Ça ne vient pas de l'extérieur. Il a été abusé par un prêtre, il est devenu jésuite, et tout allait bien, sauf qu'il avait mal partout. Il avait tout le temps des lumbagos, il y avait des trucs, des machins, des infections sans germes, des trucs bizarres que les médecins ne comprenaient pas, ça c'est très fréquent, donc il passait son temps chez le médecin. Jusqu'au jour où il s'est souvenu, 30 ans après, 35 ans, dans la moyenne. Et là, comme il est jésuite, il a pris le taureau par les cornes, il a porté plainte, il est allé voir l'évêque, l'évêché où il avait été abusé, qui n'a rien trouvé d'autre à lui dire que « Allez, viens, on va prendre une bonne choucroute ». Il raconte tout ça, mais c'est formidable parce que c'est dit avec bienveillance. Il aime bien cet évêque, il l'a connu, mais c'est ça le systémique, il n'a rien compris. Quoi. Et puis il raconte son chemin, il raconte comment il découvre tout ça. Bon, bref, voilà. Je m'arrête là.